voix nue. Cette semaine, Christine O'Krent s'entretient avec Jacques Séguéla. Ce soir, consommation et communication.
Jacques Séguéla, merci de nous recevoir à nouveau. Vous nous racontiez, au fond, comment vous avez échappé belle. Vous auriez pu rester journaliste.
Oui, je pense pas que j'aurais été un très bon journaliste. Parce que je ne suis pas tellement l'homme des faits, je suis l'homme des rêves. Et la grande différence entre le journalisme et la publicité, c'est que les journalistes sont marchands de faits divers, et puis ils aiment bien aussi être marchands de fake news. Tandis que les publicitaires, eux, ils sont les marchands du rêve. Et donc il n'y a pas de fake news dans les rêves. Tout est faux dans les rêves et tout est vrai dans les rêves.
Enfin oui, un rêve dont l'ampleur correspond au budget dont il dispose pour le fabriquer.
Non, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de talent. C'est pas vrai. Les plus grandes campagnes ne sont pas les plus chères. Au contraire, généralement, les plus grandes campagnes, ce sont les campagnes de lessive, les campagnes de très lourdes marques, elles ont presque peur de la créativité. Ça change un peu avec les temps, mais pendant pratiquement 20 ans, elles ont été bloquées sur la créativité, d'abord parce qu'elles testaient tout en permanence, et moi je n'ai qu'un slogan, un peu moins de tests, un peu plus de testicules. C'est le courage des annonceurs qui crée le talent des publicitaires, et non pas le contraire. Et elles commencent à se redresser. Mais c'est le poids des rêves qui m'a toujours conduit dans la vie.
Vous avez dit, j'ai connu le passage de la réclame à la publicité, puis de la publicité à la consommation. Ça veut dire qu'en un demi-siècle de métier, il y a eu vraiment différentes phases dans les métiers de la publicité.
C'est là qu'est née la société de consommation. Je n'aime pas qu'elle existait. Elle existait évidemment avant que j'arrive. Mais les années 80 vont être le déferlement, les 70, parce que ça commence vraiment en 70. Nous, on est créé le 1er janvier 70. C'est là que la consommation va se révéler avec ses excès. Et que l'on est en train de vivre aujourd'hui, où on est dans le grand passage de la société de consommation à une société de consommer moins, mais consommer mieux, et d'alter-consommation. Je crois qu'on ne retrouvera plus jamais cette frénésie de consommation qui a entraîné la frénésie publicitaire, parce que les années fin 70 et 80 ont été des années pub. On avait nos critiques dans les grands journaux. On avait des émissions, merci Christian Blachas, hebdomadaires qui ne parlaient que de publicité. Et c'est là où d'ailleurs, moi j'ai eu la chance de me faire un petit nom, parce que la presse publicitaire existait, alors qu'aujourd'hui il n'existe plus que la presse sportive, un peu la presse médicale, et puis la grande presse, point à la ligne. Il n'y a pas de corporation. Un peu la presse automobile, il n'y a pas de corporation qui ait sa propre presse.
La première agence que vous créez avec Bernard Roux en 1970, et elle devient instantanément fameuse pour une publicité où vous détournez, je l'ai sous les yeux, grâce à la documentation de Radio France, on a donc retrouvé cette publicité pour des moteurs Mercury. Et donc, vous avez à l'époque détourné une image du président de la République, il s'agissait de Georges Pompidou, fumant, c'était un grand fumeur, hein, Pompidou, à bord d'un bateau, en vacances, à Saint-Tropez, je crois, et on voit distinctement, donc on voit Pompidou, on voit le moteur Mercury, et la réclame, parce que pour le coup, c'est une réclame, dit ceci: si nous nous acharnons depuis 10 ans à gagner toutes les compétitions, c'est pour votre sécurité, monsieur le président. Suit un long texte à la gloire du moteur Mercury. Et c'est un scandale, cette publicité.
C'est-à-dire que, avec Bernard, on disait tous les deux, Bernard était directeur du marketing, moi j'étais directeur de la création d'une toute petite agence qui s'appelait Axe Publicité. Est arrivé 68, Bernard est allé défiler avec De Gaulle, moi je suis allé jeter quelques pavés sur la tête des flics, pas beaucoup, hein, en me planquant. Et à la suite de ça, on est allé voir nos patrons, on leur a dit, écoutez, nous on reste si vous nous donnez 20% chacun. Et bien, écoutez, on va être plus simple, on va vous faire un chèque à chacun. On a été virés, on s'est retrouvés en bas au bistrot. Je crois qu'on avait touché 5 000 euros chacun, francs de l'époque, francs, chacun. Mais j'ai dit, écoute, avec cet argent-là, on va faire notre première pub. Et notre première pub était une page dans le Figaro et une page dans Le Monde qui disait de deux choses l'une: ou vous avez une agence de publicité, on va vous montrer qu'on est meilleur qu'eux, ou vous n'en avez pas, on va vous montrer qu'on est bon. Le seul qui a répondu, c'est Mercury. Et Mercury dit, écoutez, j'ai une agence, je viens de la virer, parce que la campagne est catastrophique, j'ai pas vendu un moteur. Donc il vous reste une page de l'Express et une page de Match. Vous avez carte blanche. Je me suis souvenu que quand j'étais à Match, j'avais fait un reportage sur Pompidou, justement, qui était à Saint-Tropez, et qui était sur un petit bombard. Je me dis, mais si par miracle, c'était un moteur Mercury. J'appelle mes copains de Match, ils me glissent la photo en douce, j'avais pas le droit, bien sûr, ils me glissent la photo en douce, et on fait l'annonce. Je n'imaginais pas que ça allait faire un scandale à ce point.
Bon. Donc, dans l'Express.
Mais à l'époque, les pages de l'Express étaient envoyées en osalide, c'est-à-dire elles n'étaient pas encore imprimées, à l'Élysée pour vérification. C'est Madame Pompidou qui feuillette, non pas pour le vérifier, mais qui feuillette et qui tombe sur cette page-là, qui dit « mais Claude, c'est pas possible, vous prenez pour un mannequin maintenant ». Lui est un peu vexé. Alors il lève d'un bond, il appelle Servan-Schreiber et lui dit « je saisis le journal ».
Donc Jean-Jacques Servan-Schreiber, le grand patron, le créateur, avec Françoise Giroud, de l'Express de l'époque. On est en 70, je le rappelle.
Moi, je reçois un coup de téléphone de Françoise Giroud qui dit « mais quelle imbécilité vous avez fait, etc. Venez me voir tout de suite ». Donc, je vais la voir et elle dit « maintenant, vous êtes responsable de ça, trouvez-moi une idée ». Je dis « c'est très simple ». La chance, c'est que par derrière, c'était une autre publicité. Donc, j'ai dit « on va arracher les pages ». Elle m'a dit « écoutez, d'accord, c'est votre job ». Et elle me fait conduire dans un hangar où il y avait 400 000 express.
Donc moi c'était une époque où les hebdomadaires et d'abord l'Express d'ailleurs.
Et donc moi je convoque tous les copains, tous les bancs, tous les arrière-bancs, etc. On s'est retrouvé à une cinquantaine et on a arraché des pages pendant 48 heures. Donc le journal a pu sortir à temps. Mais j'ai vu venir quand même les télévisions pour qu'il y ait quelques numéros qui puissent échapper et être publiés à la télé le soir. Et donc on est devenu célèbre.
Enfin, et la, début et de célébrité. Et l'agence était lancée.
Oui. Ça s'appelle la publicité. Ça s'appelle les fake news. Elles sont autorisées en publicité, elles sont interdites en presse.
À partir de là, ce sera une cavalcade pour vous et pour vos associés dans ce qui sera l'une des grandes histoires à succès, pour parler français et non pas anglais, de la publicité française. Vous allez enchaîner les campagnes les plus célébrées.
C'est là où Citroën va apparaître. On va en fait racheter l'agence Delpire, qui est la première. Moi, quand j'ai quitté, quand la ZRF m'a poussé vers la publicité, j'ai frappé à la porte de Wolfgang Saint-Étienne et de Puech, les patrons de la communication citoyenne de l'époque, qui ont téléphoné à leur agence. Et j'ai été engagé instantanément. C'était leur plus gros client. Je me suis retrouvé chez Delpire, qui d'ailleurs, après le choc des fauteuils, le poids des mots, m'a montré comment ça s'appliquait à la publicité. C'était un œil extraordinaire. Mais il n'était pas très publicitaire, il n'aimait pas ça. Mais c'était avant tout un photographe, un directeur artistique de génie. Et il m'a dit, comme tu es pharmacien, tu vas créer le service pharmaceutique de Delpire. Et j'ai eu comme premier client Roussel, qui lançait un médicament qui s'appelait le Glyphanan. Et à l'époque, la publicité médicale, elle se résumait à des encarts que l'on envoyait aux médecins. On avait le droit d'en faire un par mois pendant 6 mois, où il y avait une illustration créative, littéraire, esthétique, et de l'autre côté, uniquement la formule du médicament, sans pouvoir dire un mot ou le moindre slogan. Et moi, je me suis souvenu que Prévert faisait des collages incroyablement douloureux.
Jacques Prévert.
Si jamais il acceptait ça, je ne le connaissais pas. Alors j'ai fait le pied de grue devant sa maison, il habitait au Moulin Rouge, au niveau du Moulin Rouge. Et un jour, il m'a ouvert sa porte, je lui ai expliqué. Il m'a dit, écoute, d'accord, mais je veux que tu restes avec moi pendant les 4 ou 5 jours où je vais te faire, il fallait faire 6 dessins, où je vais te faire tes 6 collages pour me tenir compagnie. En fait, il était très âgé, il était déjà un peu fatigué. Je me suis aperçu qu'il n'avait pas le sou. Prévert, Jacques Prévert. Non, je lui ai dit, tu vas voir, la publicité, elle est très généreuse, donc je vais t'avoir le maximum, je vais me défoncer. Alors après, il m'invitait à déjeuner, parce qu'on commençait à 11h, on finissait à 4h. Il me faisait des spaghettis. Et un jour, il me dit, va me chercher un petit Robert. Je lui ai dit, un petit Robert, c'est incroyable que Prévert ait besoin d'un petit Robert. Donc je vais aller à l'Ebro, je ramène le petit Robert. Il me dit, espèce d'imbécile. C'est un camembert, petit Robert, que je te demande. C'est pas un dictionnaire.
Et donc, c'est Jacques Prévert qui a signé.
Et donc, c'est Jacques Prévert qui m'avait fait ma première pub. et qui m'a donné ce goût de la créativité. Après, à Lazarev, je n'ai eu de la chance d'avoir des maîtres de cette importance. Sans me rendre compte, je ne me rendais pas compte.
Il y a une histoire célèbre avec Salvador Dali. Salvador Dali, que vous allez poursuivre à New York.
Ça, c'est dans les... L'agence a peut-être 3-4 ans, etc. Au début, on ne faisait que des agences immobilières, que des campagnes immobilières. Ben, c'était des compétitions qui avaient lieu le vendredi. On vous donnait la réponse le lundi et l'annonce devait sortir le vendredi. Et on était payé pratiquement rubis sur l'ongle. Et à l'époque, c'était que des petites agences, donc on gagnait toujours. Et puis, Publicis rentre dans la danse.
Non. Donc Publicis, créé par Bleustein Blanchet, et qui est
le numéro un français à ce moment-là. Et je dis, là, il faut avoir une idée de génie, il faut les taper absolument. Et c'était un immeuble qui s'appelle le Totem, que j'ai baptisé Totem d'ailleurs parce que c'était dalinesque, qui est en front de scène.
Oui, les premiers...
Des tout premiers de front de scène. Un immeuble assez beau, d'Andro et Para, les deux architectes, en verre et béton. Et je leur ai dit, écoutez, moi, j'apporte une idée. J'ai appelé mon ami Salvador Dali. On va l'appeler Totem. Et c'est lui qui va faire la maquette, dessiner la maquette de votre immeuble.
Et vous n'aviez jamais rencontré Salvador Dali.
Applaudissements. Publicis perd le budget. Mais je ne connaissais pas. Bon. Alors, à Perpignan, je trouve un copain qui me dit, il est au Saint-Régis à New York. Je saute dans un avion, je vais au Saint-Régis à New York, je réussis par miracle à la voir, et il me donne rendez-vous au Palme Courte, qui était juste en face du Grand Parc, à 5 heures. J'arrive, à la table d'à côté, Andy Warhol, je ne croyais pas mes yeux, qui se joint à nous, avec une sublime japonaise. Et à ce moment-là...
Et Dali mange des gâteaux.
Dali mange des gâteaux, c'est 5 heures, etc. Il s'empiffre de gâteaux, d'ailleurs il déjeunait pas. C'était son premier repas à 5 heures. Et il me dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Je vais faire de la publicité. Dali ne fera jamais de publicité. Mais oui, mais monsieur, je vais perdre mon client, il faut m'aider, etc. Bon, donc il me dit, d'accord, mais vous devez passer le test de Dali. Je dis, écoutez monsieur, moi je suis à vous. Bien. Vous voyez cette jeune fille qui est là? C'est une japonaise. Et elle a appris, avec les balinaises, avec ses mains, elle peut branler un homme à l'envers.
Oh.
Je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Eh bien, c'est ça, le test. Et je vois la japonaise descendre sous la table. Donc, je suis pétrifié, absolument pétrifié. Bon, elle s'arrête au moment, et tout le monde éclate de rire, y compris Andy Warhol, ça le faisait hurler de rire, etc. Et à ce moment-là, le maître me dit, ben, je ferai votre tableau, mais je veux être payé en bougreau, qui était le peintre-pompier de l'époque.
Il voulait des toiles de mer. Dali, voilà. Qui était surnommé Avido Dollar.
Hein. C'était sa femme, surtout. C'était sa femme qui était Avida Dollar. Et rendez-vous à Paris. Et donc, il me dit, j'ai besoin que vous m'envoyiez une jolie fille de l'agence pour m'inspirer, parce que Dali ne peut pas peindre une publicité de la main droite. Donc, je vais faire son portrait de la main droite et je ferai le dessin de votre immeuble de la main gauche. Et donc, je demande à une jeune fille très jolie de l'agence, je dis, écoute, sacrifie-toi, tu ne risques absolument rien, il est impuissant. De toute façon, Gala est là dans le hall. Bon. Elle y va. Ça dure 3 jours. Chaque fois, elle lui dit, mais est-ce que je peux voir mon portrait? Est-ce que je peux voir mon portrait? Le troisième jour, il lui montre son portrait. Il n'avait peint que son sexe. Mais de la main gauche, il avait peint, et c'est magnifique, il avait peint l'immeuble.
J'espère qu'il lui a offert la toile.
Voilà, et ça va être un grand succès, etc. Je vais garder la toile. Mais 3 ans après, je vais avoir quelqu'un qui va venir de la part de Dali. Il était mort, d'ailleurs, je crois. Récupérer la toile. Donc, la toile est repartie au musée. Et il a été payé par un bougreau.
Donc, le peintre bougreau.
Et moi, j'écris dans un de mes livres, j'écris la scène, etc. Et je reçois par retour de courrier la lettre du prince de Danemark qui me dit, monsieur, vous êtes un escroc parce que le bougreau dont vous parlez est dans la famille depuis des générations et il est dans notre salle à manger. C'est-à-dire que Dali avait choisi un faux bougreau.
Un autre épisode très révélateur de cette époque, c'est une publicité avec Gainsbourg, avec Serge Gainsbourg. Pourquoi? Pour Woolit?
Ah oui, j'ai fait 2 publicités avec Gainsbourg. La première, c'était pour Woolit. Woolit, c'était une lessive, et le slogan, c'était « Woolit, lave plus belle ». Pas lave plus blanc, lave plus belle. Et donc, je demandais aux grandes actrices françaises de faire 30 secondes de charme. Vous savez, carte blanche pour faire 30 secondes de charme. Et à ce moment-là, je fréquentais Gainsbourg, j'étais en admiration totale, et il voulait faire du cinéma. Et je lui ai dit, si tu veux faire du cinéma, le mieux, commence par du cinéma publicitaire, moi je vais te trouver des films. Et tu vas te faire la main. Et c'était son premier film, de cette première fois qu'il touchait une caméra de sa vie. Je vais avec lui pendant une semaine, tous les soirs, on travaille, on écrit des scripts, etc. J'en isole trois, mon client en choisit un, et puis on se retrouve pour le tournage. Et là, évidemment, c'est sa femme qui était la femme de sa vie, qui était l'héroïne du film, et elle se déshabille. Donc mon client reste là pétrifié de voir Jeanne Birkin se déshabillant. Au centre du studio, il y avait un petit escabeau comme ça tournant. Donc il installe la SAR sur le petit truc tournant. Il avait fait tricoter une immense écharpe blanche et bleue aux couleurs de Woodit. Elle s'entoure dedans. Il y avait deux assistants qui tenaient. Et ça se déroule pour s'arrêter pile au moment où il ne faut pas aller très loin. Succès assuré dans les médias. On n'a pas vendu en Woodit parce que les ménagères ont trouvé qu'elle elle n'était pas de ce bois-là.
La ménagère de moins de 50 ans et de plus de 50 ans. C'est la grande époque donc de ces campagnes publicitaires qui passent surtout à la télévision. C'est aussi l'époque de l'essor de la
68,
télévision.
C'est pour moi, ce n'est pas la révolution. 68, c'est l'arrivée de la publicité à la télévision. Et c'est elle qui va d'ailleurs énamourer les Français des années 70 et jusqu'aux années 80, parce que c'est ce spectacle télévisé qui va devenir le spectacle préféré des Français.
Avec donc certains des slogans publicitaires les plus célèbres de l'époque et signé Jacques Séguéla, donc carte noire.
Un café nommé Désir.
Décathlon.
À fond la forme.
Alors, je crois que ça c'est un peu plus tard, Vuitton.
Ah, Vuitton, non, c'est beaucoup plus tôt.
C'est plus tôt.
Moi, j'ai fait la publicité de Vuitton pendant 60 ans. Je suis toujours dans l'agence, le budget Vuitton. Il est chez BETC maintenant. À l'époque, il y avait quatre enfants Vuitton, trois garçons et une fille, qui s'entre-déchiraient d'ailleurs chaque fois. Et moi, j'avais comme budget de faire une brochure par an pour montrer la gamme de Vuitton. Et le slogan, j'avais écrit « L'âme du voyage ». Et 45 ans après, c'est toujours l'âme du voyage.
À propos d'une montre, là, vous avez eu un autre élan créatif, si j'ose dire.
Oui,
c'était à la télévision. Et vous avez dit, à propos d'une Rolex, vous avez dit, si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Donc, comment dire, c'était moins heureux. Enfin, en tout cas, on vous l'a beaucoup reproché. C'était peut-être bien trouvé.
À juste raison. Et je me souviens que le soir même, je suis allé chez Canal+, faire amende honorable et me gifler. Pour que les choses soient bien claires. C'est sorti du contexte, parce que moi, je parlais de la montre et de la Rolex de Nicolas Sarkozy. J'étais là, en train de défendre Nicolas Sarkozy.
Qui venait d'être élu président de la République.
Non, il allait être élu.
Il allait être élu.
C'était les derniers moments. Et dans la flamme du truc, j'ai dit à un journaliste, mais vous lui reprochez d'avoir une Rolex et des Ray-Ban, mais vous avez tous une Rolex et des Ray-Ban. Et je ne sais pas comment c'est sorti, pas du tout maîtrisé. Bon, un homme qui n'a pas une Rolex à 50 ans a raté sa vie. Je parlais d'un homme politique. Bon, sorti du contexte. Bon.
Mais ce qui était drôle, c'est que la marque, enfin la Suisse, a été très embarrassée et n'a pas su comment se dépêtrer.
Elle n'a pas su comment se dépêtrer. Elle ne m'a jamais offert de Rolex. Ma femme m'a offert une Rolex pour mes 80 ans. Donc, finalement, j'ai quand même gagné une Rolex dans l'affaire. Je suis le seul à avoir gagné une Rolex dans l'affaire. Moi, mon discours, je ne voulais pas du tout dire ça. Ce n'est pas l'argent qui m'intéressait là-dedans. Je dis simplement, on a besoin de rêves. Mon exemple de Rolex était ridicule comme rêve. Bon, mais c'est simplement parce que je pensais à Nicolas Sarkozy. Mais ce que voulait dire ma phrase, c'est qui que vous que soyez, quel que soit votre niveau, etc., quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre réussite ou pas, nous avons tous besoin de rêves, nous ne marchons qu'aux rêves.
C'est aussi, on en parlait, la société de consommation dans toute sa folie. Et pour en revenir à Gainsbourg, on a tous en mémoire, en tout cas les moins jeunes d'entre nous, Gainsbourg flambant un billet de 500 francs à l'époque, à la télévision, je crois que c'était chez Pivot.
Oui. Non, c'était chez Sinclair.
Mais pour dénoncer donc cette société de consommation dont il participait à 7 sur 7, exact.
Et alors là-dessus, je vais faire une deuxième campagne avec Gainsbourg. Moi, je rêvais d'avoir le budget BIC. Et je lui dis, écoute, il faut qu'on fasse un truc ensemble, comme ça tu feras le film après. Et on écrit le script. C'est Gainsbourg qui est devant une scène, fond noir, et il dit, moi j'ai tout vendu. Hein. J'ai vendu mes poumons à la cigarette, j'ai vendu ma voix à la chanson, j'ai vendu mon sexe aux femmes, et j'ai plus rien à vendre. Si, il me reste ma barbe. Alors là, je veux bien la vendre, mais à BIC. Et personne d'autre. Et on tourne la maquette. Je l'amène au baron Bic, qui était encore vivant, 3 jours après. Et il dit, écoutez, moi, je fais pas de télévision en France, mais je trouve ça formidable. Mon fils est en Amérique, c'est le patron. Je pense que lui, ça va l'intéresser. Je vais vous prendre rendez-vous. 2 jours après, il me téléphone, il dit, mon fils vous attend à New York. Je saute dans l'avion, j'arrive à New York. Je montre le film à Bruno Bic, qui est maintenant le patron de Bic, et qui dit, mais vous êtes très gentil, mais personne ne connaît Gainsbourg ici chez nous. Vous perdez votre temps. Et donc le film n'est jamais sorti. Mais c'est un film d'anthologie, parce qu'il existe. Hein.
Il existe toujours.
Il existe. Allez le chercher sur le net.
À l'époque, vous dites, donc de ce métier qui est en plein essor et que vous commencez déjà à incarner, vous dites, au fond, je suis un battleur moderne, un funambule du commerce, un saltimbanque de la consommation, mais, ajoutez-vous, c'est aussi une machine à fabriquer du rêve. Du rêve pour la ménagère de moins de 50 ans.
Oui, mais il n'y a pas de mal. Mais du rêve pour tout le monde. Il n'y a pas que la ménagère de 50 ans qui consomme. 80% des achats sont faits par les femmes. D'ailleurs, maintenant, ça commence à baisser comme pourcentage. Mais la publicité touche tout le monde. Et surtout, il faut savoir que 80% des marques que j'ai connues au XXe siècle sont mortes. 80% des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir à la fin du siècle. Donc notre métier à nous, c'est d'être d'abord... Les gardes du corps des marques, de les protéger si elles ont une attaque, s'il y a une crise, etc. D'être leur garde du cœur, donc de leur créer leur ADN, cette valeur qui va les faire devenir autre chose que des marques, presque des humains, et puis des gardes du temps. Parce que nous, les publicitaires, nous créons l'immortalité. Coca-Cola fête ses 120 ans, il a 20 ans, l'âge de ses publicités. Citroën, j'ai même écrit un livre sur ses 100 ans de publicité. Citroën fête ses 100 ans, il a 20 ans, l'âge de sa publicité. Donc nous sommes créateurs d'immortalité.
Pourquoi ? Parce que la star, c'est le produit. Donc c'est le star system appliqué
absolument
au produit.
Absolument. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelait « Hollywood de la flux blanc » sur la théorie justement du produit star, qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il doit être... les gens ont confondu en pensant qu'il fallait utiliser des stars pour que les produits soient stars. Non, c'est un des moyens comme un autre. Mais le produit, c'est une star de la consommation. Et les grandes marques ne sont rien d'autre que des stars qui viennent nous amuser. J'ai vu que pour la grande manifestation américaine annuelle, cette année, le spot de 30 secondes s'était vendu 5,6 millions de dollars, 10% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Donc, faut pas croire que la publicité va mourir. Elle ne mourra jamais. Pourquoi ? Parce que la publicité a une âme et les âmes ne meurent pas.
Une âme dont vous venez de donner le prix, qui est quand même tout à fait exorbitant.
Mais vous devriez vous rassurer, vous les médias. Après, c'est ce qui vous fait vivre. Donc, ne vous plaignez pas.
Ah, nous sommes le service public. Donc c'est un peu différent.
Mais même le service public, il a ses petites pubs de temps en temps.
Vous avez énoncé un certain nombre de principes à propos de la publicité. Vous avez dit dans les années 70, la publicité c'était les 3 E, la lettre E, comme élémentaire, événement, environnement. Dans les 80, les 3 R, le rêve, le rire, le risque. Les années 90, les 3 S, simplicité, spectacle, substance.
Oui.
Aujourd'hui,
c'est toujours la même règle. Simplicité parce que tout le monde doit comprendre, substance parce que notre métier c'est de donner du sens, et spectacle parce qu'y a-t-il un plus beau spectacle qu'un grand film de pub de 30 secondes.
Merci Jacques Séguéla, à bientôt.
vous retrouverez demain la suite de cet entretien de Christine Ockrent avec Jacques Séguéla. À voix nue, prise de son Fabien Gosset, Arthur Dumont, réalisation Mydia Portis-Guérin, François Connac, attaché d'émission Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.